tous. Merci à Alexandre pour cette présentation, cette présidence, et pour tout ce qu'il nous a présenté. Et puis, je voudrais aussi vous remercier pour votre attention, pour votre intérêt, pour votre investissement pour les missionnaires. En tant que présidente de la commission missionnaire de la FEDE, je peux être fière. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté de représenter mon église qui est quand même investie, puisque parmi les missionnaires, il y en avait deux qui sont membres de notre église, Alban et Nathan Minard, et puis Rivers et Becky qui ont passé plusieurs années aussi parmi nous. Donc voilà, on a une église investie aussi financièrement, parce que bon, voilà, on donne pas mal. Voilà, donc je voulais vous remercier au nom de la commission missionnaire. Voilà. Alors, je démarre ma prédication. Un dimanche matin, tous les membres d'une communauté se réveillèrent après avoir fait le même rêve. Un ange leur était apparu cette nuit-là, juste avant l'aube. Tandis qu'ils émergeaient lentement de leur sommeil, une question les hantait. Qu'est-ce que ça signifie ? Ai-je simplement rêvé ou était-ce réel ? Personne n'imaginait que d'autres avaient eu exactement le même songe. Pourtant, l'ange était apparu simultanément à plusieurs d'entre eux et avait murmuré la même phrase à leur oreille. « Le Messie est parmi vous ». Ils n'avaient toutefois pas parlé à tous de la même manière. Certains, sans leurs appareils auditifs, avaient eu besoin d'ajustements. L'ange savait que la première réaction des hommes quand ils parlaient, et des hommes et des femmes, pouvait être la peur. Alors, il avait adapté son approche. À Isabelle, une jeune du groupe de l'église, il avait dit doucement « Pas de panique, j'ai une bonne nouvelle pour toi ». Et au petit Paul, âgé de 5 ans, il avait été rassurant en disant « N'aie pas peur, je suis là, pour de bonnes raisons ». À Henriette, la grand-mère, il avait proclamé d'une voix plus forte « Ne crains rien, j'ai une bonne nouvelle pour toi ». Elle n'avait pas les appareils pendant la nuit. Clara, assise sur le bord de son lit, se demandait elle aussi si elle avait vraiment vu un ange lui chuchoter « Le Messie est parmi vous ». Elle prépara un bon café avant d'appeler son amie Isabelle. Alors, pour ne pas répéter les prénoms pendant la conversation téléphonique, quand je suis là, c'est Clara, quand je suis là, c'est Isabelle. J'ai fait un rêve très étrange. Un ange était dans ma chambre et, laisse-moi deviner, il a dit que le Messie est parmi nous ?
Oui.
Comment le sais-tu ? Aurais-tu fait le même rêve ? Oui, c'est fou. Penses-tu que c'était un vrai ange ? Peut-être. Le Messie est parmi nous. Eh bien, qui cela pourrait être ? Moi, certainement pas. Je suis bien trop distraite pour ça. Oh, qui sait ? Parfois, tu sais éclaircir les choses. Allons, soyons sérieuses. Qui pourrait être le Messie ? Tante Henriette, peut-être ? Elle connaît très bien sa Bible, hein ? C'est vrai. Oui, mais tu penses que le Messie se promène avec une canne et distribue des bonbons aux enfants ? Pourquoi pas ? Elle a toujours un mot gentil pour chacun. Ou alors Georges ? Oui, le Messie pourrait être lui. Il est toujours présent quand on a besoin de lui. Mais tu crois que le Messie conduit trop vite et boit trop de café ? Qui sait ? Ouais, qui sait ? Clara et Isabelle continuèrent leur conversation tout en buvant leur café, passant en revue la liste des membres de la communauté. Qui pourrait être parmi nous le Messie ? Quand l'heure du culte arriva, Clara dit : je suis de ce côté. Et si parmi nous ne désignait pas seulement notre groupe ? Peut-être qu'on se trompe en se focalisant sur les membres de l'Église. Nous devrions penser aux amis de la communauté, aux enfants. Oh, tu crois quand même pas que le Messie porte des couches et ne sait pas encore parler. Qui sait ? Oui, qui sait ? Pourquoi l'ange n'a-t-il pas précisé ce qu'il entendait parmi vous ? Ça pourrait être mon voisin, quelqu'un de l'autre côté de la rue. Peut-être que le Messie est marié, père de famille, très occupé par son travail. Qui sait ? Et Clara conclut : bon, il est temps de raccrocher si on veut être à l'heure à l'église. Restons attentives, ce serait fascinant de découvrir qui est le Messie parmi nous. Ce matin-là, l'église offrait une atmosphère différente. Dès l'accueil, chacun était plus attentionné et prévenant. Personne ne voulait passer devant le Messie sans le remarquer. Certains racontaient leurs rêves et d'autres gardaient le silence. et observer discrètement. Et si le Messie était resté chez lui à cause du brouillard ? Peu à peu, chaque membre commença à voir l'autre différemment, avec plus de chaleur et de respect. Les querelles furent oubliées, car qui voulait être en conflit avec le Messie ? La réputation de l'Église grandit comme un lieu de bienveillance et d'amitié. Les invitations se multiplièrent, les fêtes devinrent plus animées et inclusives, réunissant enfants, aînés, voisins. Quelques semaines plus tard, lors d'une fête, Clara et Isabelle observaient cette joie partagée. Clara demanda « Alors, qu'en penses-tu ? Qui parmi nous est le Messie ? Penses-tu vraiment qu'il s'agit de l'un de nous ?» Isabelle répondit « Ne pourrait-il pas en être autrement ? Regarde cette fête. Observe la manière dont les gens se comportent les uns avec les autres. Ils s'entraident, ils célèbrent ensemble, ils montrent du respect envers les étrangers. Le Messie ne pourrait-il pas être parmi nous sans que nous puissions le désigner du doigt et dire « c'est lui » ou « c'est elle » ? » Alors qu'elle méditait sur leur rêve, un bruit léger semblable à un battement d'ailes se fit entendre. De la poussière se souleva discrètement dans un coin de la pièce et soudain la vieille Bible s'ouvrit d'elle-même à une page très précise où on pouvait y lire « car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, verset 20. Je vais prier. Merci Seigneur parce que tu es parmi nous ce matin. Le Saint-Esprit veut nous parler, nous enseigner, nous toucher au plus profond de notre être. Que ma bouche soit le vecteur de ton message et que tu changes nos cœurs pour devenir toujours plus semblables à toi. Et je demande cela au nom de Jésus. Amen. Alors vous devez vous demander pourquoi je vous ai raconté cette jolie histoire. En fait, c'est juste pour vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le Messie est parmi nous ? Oui, on voit qu'il hoche la tête, donc je vais prendre ça pour un oui. Alors, si Dieu est parmi nous, comme Jésus était avec ses disciples et les autres personnes qui le suivaient, ce n'était pas seulement pour passer du bon temps ensemble, entre personnes de bonne volonté qui s'entendent bien. Encore qu'il arriva aux disciples qui étaient quand même d'horizons complètement différents de se disputer. Mais bon. Et ce n'était pas non plus un statu quo. Non, la communauté qui suit Jésus pardon, est en mouvement. Mais en mouvement vers quoi ? En fait, elle est en mouvement vers la position de disciple. Nous sommes tous appelés à devenir disciples, comme dans le rêve que j'ai raconté, où chacun pouvait être une figure du Messie. Nous sommes tous appelés à être des disciples qui font des disciples. Et pour revenir au thème qui nous occupe aujourd'hui, être missionnaire, c'est avant tout être disciple qui fait des disciples. Je vais donc ce matin parler indifféremment d'être missionnaire ou d'être disciple. Conserve Dieu au loin ou auprès de nos proches. L'important, c'est de répondre à son appel et de le servir. Nous connaissons plusieurs textes qui parlent de Jésus envoyant ses disciples en mission. En Matthieu 9, verset 36 jusqu'au chapitre 10, verset 1, Jésus est rempli de compassion pour les foules, car elles sont blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Puis Jésus appela ses douze disciples, et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'était ça leur mission quand Jésus les envoie. Et en Matthieu 28, 19, on l'a lu ce matin, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Jésus nous donne l'ordre de nous mettre en route et d'aller annoncer, au près ou au loin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie de faire un travail missionnaire ou de faire des disciples ? Faut-il être à l'autre côté de la planète, comme Alban, à Madagascar ? Faut-il travailler pour une ONG, une association sociale chrétienne, comme Jean-Marc le fait parmi nous ? Faut-il que notre rémunération dépende de dons ou faut-il être à plein temps, comme dans le ministère, comme notre pasteur Laurent ? On a tous peut-être en tête une image d'Épinal du missionnaire issu d'un pays occidental, plutôt riche, qui s'en va au loin parmi des peuples de cultures complètement différentes et de croyances qui lui sont complètement étrangères. Depuis, le monde a beaucoup changé. et est devenu un village où tout le monde peut être amené à rencontrer tout le monde en traversant la rue. Évidemment, j'exagère, mais les transports, la communication, la globalisation ont fait tomber pas mal de barrières. Tout ça pour dire que le champ missionnaire est à notre porte, soit parmi les migrants, qui c'est pas nous qui allons, mais c'est eux qui viennent chez nous, soit parmi nos voisins qui n'ont plus de repères religieux, soit parmi les personnes en difficulté, qu'elles soient matérielles, relationnelles, existentielles, psychologiques, enfin des gens qu'on croise tous les jours. Donc tous, nous sommes des missionnaires en puissance. Mais comment devient-on missionnaire ? Un missionnaire est celui qui est et qui fait. Je m'explique. Celui qui est disciple de Christ est celui qui fait, qui agit, qui va vers les autres. Il est en marche pour annoncer la bonne nouvelle. On a parlé ce matin de Daniel Sely, donc missionnaire parmi les miennes. Il a écrit donc dans le petit fascicule que je vous conseille de récupérer à la sortie, un article sur comment devient-on missionnaire. Et je vais le lire en ayant adapté un petit peu. La mission, c'est être ou faire. En fait, c'est parce que je suis que je fais. C'est pourquoi je suis en mission. Le champ de la mission est le lieu où je manifeste par le faire ce que je suis. Il prend comme exemple la parole d'un homme qui avait deux fils dans Matthieu 21, versets 28 à 31. Pour situer le contexte, Jésus est entouré des principaux sacrificateurs et des anciens et il leur pose cette question. « Qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit « Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. » Celui-ci répondit « Bon non, je ne veux pas. » Plus tard, il fut pris de remords et il alla. L'homme s'adressa à son second fils et lui dit la même chose. Celui-ci répondit « Ah bien sûr, maître, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? Les anciens et les principaux sacrificateurs, et vous aussi, je suppose, vous allez répondre, ben c'est le premier. Être, c'est parce qu'ils ont le statut de fils de leur père, qu'ils ont été sollicités pour le travail dans la vigne, qui est la mission. Le père appelle chacun « mon enfant », c'est leur être. Faire, c'est parce que le père a observé que sa mission nécessite des soins, qu'il demande à ses fils... que le père a observé que sa vigne, qui est une mission, nécessite des soins et il demande à ses fils d'aller travailler. Donc c'est une action, d'aller travailler dans sa vigne. « Mon enfant va travailler dans ma vigne aujourd'hui. » Et on peut noter que le « va », c'est aujourd'hui. Le travail ou l'action ou la mission ne peut pas être reporté au lendemain, c'est aujourd'hui. Le père n'appelle pas quelqu'un qui n'est pas son fils, qui n'a pas ce statut pour partir dans sa vigne ou en mission. Quelle que soit la mission pour faire la volonté du Père, c'est pour faire la volonté du Père. Donc il y a être et faire. Le fils aîné malgré lui et le fils qui est être et faire, même si c'est bien malgré lui. Et le second, malgré sa bonne volonté, il n'est que être, puisqu'il ne fait pas. Et donc la mission, c'est à la fois être et faire, et non pas être ou faire. Il y a donc deux étapes pour devenir missionnaire, ces deux étapes que le Christ lui-même a appliquées à ses disciples. La première étape consiste à apprendre à être. C'est un temps de formation. Au début, Jésus appelle ses disciples tout juste pour être ses disciples, pour leur apprendre à être. Il leur parle en parabole, par le sermon sur la montagne, par sa façon de vivre. Et en conclusion du sermon sur la montagne, en Matthieu 7, versets 24 à 27, Jésus dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je les comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Être disciple, c'est plus qu'écouter les paroles de Jésus, c'est les entendre, c'est-à-dire les comprendre, c'est les garder dans son cœur, c'est les méditer pour y revenir. C'est être ancré en Jésus, proche de lui, c'est partager sa compassion pour les perdus. Paul, en 1 Corinthiens 9, 16, dit « L'amour de Dieu nous presse ». Et un peu plus loin, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », parce qu'il était vraiment ancré en Jésus, il était zélé. Être disciple de Jésus, c'est bien connaître sa parole. Peut-être que vous avez déjà lu la Bible, et c'est très bien. Mais il faut la lire et la relire encore, car elle nous enseigne au quotidien à être enfant de Dieu. Un enfant a besoin de ses parents tous les jours, pas qu'une fois par semaine. Quand Jésus appelle quelqu'un comme disciple, il demande aussi l'exclusivité. Pierre a laissé sa barque et ses filets. Jacques et Jean ont abandonné leur père. Matthieu a abandonné son poste très rémunérateur de percepteur d'impôts. Et nous aussi, nous demande la même chose. Nous pouvons venir à l'église pour accomplir notre devoir de bon chrétien, un culte par semaine ou par mois, une offrande par virement ou dans la boîte qui se trouve à la sortie. Nous pouvons multiplier les paroles de notre bouche, crier « Seigneur, Seigneur ». Mais ce n'est pas ça, être disciple. Jésus nous demande d'être assis à ses côtés tous les jours pour écouter sa parole. Être disciple, c'est être comme Marie, la sœur de Marthe, celle qui reste assise aux pieds de Jésus pour écouter ses paroles, pour les garder dans son cœur et pour ensuite les mettre en pratique. Et du coup, mettre en pratique, c'est quoi ? On passe de être au faire. C'est le faire après le être. C'est aller, c'est servir. C'est s'engager pour annoncer la bonne nouvelle, au loin ou au près. C'est annoncer au loin et au près. Et pour ce faire, c'est obéir d'abord. Obéir selon Matthieu 28, 19, à l'injonction de Jésus à la fin de sa vie. Allez, faites de toutes les nations ses disciples. Enfin, sa vie sur terre. L'obéissance suit la phase d'apprentissage et de sensibilisation à la volonté de Dieu. Pour faire le travail, il faut obéir, il faut aller, il faut agir. Les disciples ont suivi Jésus pendant 3 ans juste pour être disciples. Puis après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont allés pour faire des disciples et annoncer l'Évangile à Jérusalem, dans la Samarie et dans tout le monde connu de l'époque. Il ne faut pas attendre des moyens. Jésus a envoyé ses disciples juste avec un bâton de marche, même pas avec une valise ou du linge de rechange. En Luc 9, verset 3, on lit « Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez même pas de tunique. » Bon, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le même contexte, mais on peut garder cette idée en tête. Il ne faut pas attendre d'avoir une équipe avec de nombreux collaborateurs. Même s'il nous dit de prier pour que le Seigneur de la moisson envoie des ouvriers, on n'est pas nombreux, c'est pas grave. Allons-y et répondons à l'appel de Jésus, faisons des disciples et en plus prions pour qu'il envoie d'autres ouvriers. Nous ne sommes pas tous appelés pour aller dans le même endroit, pour faire la même chose. Chacun reçoit par le Saint-Esprit un appel qui lui est propre. Dans l'Église, nous avons beaucoup, beaucoup d'activités. Chacun peut s'engager dans une activité selon ses goûts et les talents qu'il a reçus de Dieu. Il y a suffisamment d'activités et de besoins dans l'Église pour que chacun trouve sa place de disciple et s'engage selon l'appel qu'il reçoit. Quand j'ai arrêté mon activité professionnelle, je voulais travailler pour Dieu. Et je lui ai donc demandé de me guider dans mes choix d'activités associatives, puisque c'était plus professionnel. Évidemment, sa réponse n'a pas été celle que j'attendais. Je me suis retrouvée à faire de la comptabilité pour l'association Jeunesse Ardente, alors que j'y connais absolument rien en compta. J'ai un diplôme d'électronique, donc rien à voir. Et puis, un peu plus tard, Samuel, notre ancien pasteur, m'a demandé de participer à la commission missionnaire, et puis en cours d'année, de le remplacer en tant que président, puisqu'il avait des petits soucis de santé. Là aussi, je peux vous dire que ce n'était pas évident parce que bon, le monde de la mission baptiste, il parlait en code, il parlait par des prénoms. Je voyais passer les ballons, je comprenais rien. Mais je me suis accrochée, que ce soit pour la compta ou pour la commission missionnaire, parce que j'étais convaincue que ça, là, c'était ma place. Mais le pompon, c'est quand on m'a demandé de prêcher. l'an dernier, pour le dimanche de la mission, au lieu de faire la première partie comme je faisais d'habitude. C'est Franchon qui m'en a parlé la première. Et j'ai tout de suite pensé que c'était une blague. Mais non, Franchon ne blaguait pas. Puis, je me suis dit, bon, c'est bien gentil de penser à moi, mais j'en suis pas capable. Et puis, du coup, j'ai pris rendez-vous avec Laurent en me disant, quand j'aurai fait étalage de mon inexpérience et de mon incompétence, je pourrai revenir tranquillement à ma première partie que je maîtrise bien mieux. Entre-temps, le Saint-Esprit a travaillé mon cœur et quand j'ai rencontré Laurent et qu'il m'a confirmé que toujours que ce n'était pas une blague, j'ai accepté et je peux vous dire que ce n'était pas facile et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. En revanche, je peux témoigner de la paix que je reçois et que je vis chaque fois que je demande à Dieu de calmer mes craintes, surtout de ne pas être à la hauteur. Vous aussi, Dieu vous appelle à le servir. À vous de discerner dans quel domaine d'activité. Et si vous recevez un appel, ne résistez pas. Obéissez à la voix du Saint-Esprit. Je ne vais pas faire une prédication sur le Saint-Esprit et le discernement aujourd'hui, mais je suis convaincue de cela. Si vous endurcissez vos cœurs, si vous n'écoutez pas sa voix, alors il vous parlera de moins en moins fort et finira par se taire. En fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui se tait, mais c'est votre oreille qui se ferme de plus en plus jusqu'à ne plus rien entendre. Vous serez alors comme ces gens dont le prophète a parlé. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez rien. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez rien. Et donc, pour conclure cette prédication, je vais vous laisser une parole de Dieu qui est en Hébreux 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Donc, soyez des disciples et alors vous serez en capacité de faire des disciples. Merci. On va chanter le dernier chant, Jésus est au milieu de nous.